Accent d'Europe, Alexis Bédu.
Bonjour à tous. Un violeur sur ton chemin, ce chant résonne depuis un mois dans le monde entier. Il est né à Valparaiso au Chili, puis a été repris partout, de Montréal à Saint-Étienne. Un chant, une chorégraphie pour dénoncer les violences sexistes, sexuelles, les féminicides et l'attitude de la police face aux victimes. Mais dans la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan, cela ne passe pas du tout. C'est même une insulte à la nation, une accusation qui peut mener en prison. Ces trois dernières années, depuis la tentative de coup d'État, le pouvoir politique et la justice use et abuse de l'article 301 du code pénal, l'insulte à la nation, une sanction qui illustre le retour d'un nationalisme exacerbé dans un pays toujours candidat à l'Union européenne. À Istanbul, le reportage d'Anandlauer.
Ce chant a fait le tour du monde. Écrit par un collectif féministe chilien pour dénoncer les violences faites aux femmes, il a retenti à Londres, Paris ou Bruxelles. Mais à Istanbul, le 8 décembre, la manifestation a mal tourné. Six femmes ont été placées en garde à vue ce jour-là. Parmi elles, Fida Nataselim, secrétaire générale de la plateforme « Nous arrêterons les féminicides ».
Les policiers sont arrivés, ils nous ont accusés de proférer des insultes et nous ont ordonné d'arrêter. Nous avons continué et ils nous ont interpellés. Comme nous leur avons expliqué, nous n'avons fait que traduire en turc une chanson en espagnol. Mais même si nous l'avions écrite nous-mêmes, où est le crime? N'a-t-on pas le droit de critiquer notre propre gouvernement? Même une simple chorégraphie leur est intolérable.
Les insultes en question, c'est ce passage de la chanson où les femmes accusent les policiers, les juges, l'État et le président d'être responsables des féminicides. Parce qu'elles ont chanté ces mots, Fidan et ses amis ont été accusés, entre autres, d'avoir violé l'article 301 du Code pénal turc. Le tristement célèbre article 301. Et puni de 6 mois à 2 ans de prison, quiconque insulte la nation turque. Ainsi commence l'article 301. Pendant des décennies, ces termes extrêmement vagues ont servi à poursuivre et à emprisonner des milliers d'opposants. En 2008, sous la pression de l'Europe, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président, a ajouté une condition, l'aval du ministre de la Justice pour ouvrir une enquête sur la base de cet article. Garo Paylan, député du parti pro-kurde, le HDP, se souvient des débats de l'époque.
Comme beaucoup, j'avais réclamé la suppression pure et simple de l'article 301. On nous avait berné en disant « Ne vous inquiétez pas, il faut désormais l'autorisation du ministre de la Justice et cela n'arrivera pas ». Nous faisions valoir qu'il suffisait d'un changement de climat politique, du retour à un nationalisme exacerbé, pour que les procès recommencent. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé.
En effet, après de longues années où l'article 301 semblait tomber en désuétude, il fait de nouveau parler de lui. Les procureurs l'invoquent à tout va, le ministère de la Justice réautorise son usage et les procès se multiplient. Pourtant, l'article 301 traîne derrière lui un lourd passif. Les défenseurs des droits de l'homme l'appellent l'article « assassin ». C'est une condamnation pour insulte à la nation turque qui a déclenché l'engrenage menant à l'assassinat du journaliste arménien Randik en janvier 2007. Le député Garo Paylan, arménien lui aussi, risque plusieurs procès sur la base de cet article pour avoir prononcé le mot « génocide ».
Dans le passé, les gouvernements nationalistes ont abondamment fait usage de cette accusation d'insulte à la nation. L'article 301 a tué Randik, et pas seulement lui. Cet article, c'est une invitation au crime de haine, tout particulièrement contre les Kurdes et les Arméniens. C'est un article qui vous désigne comme ennemi de la nation.
Aujourd'hui, comme autrefois, l'accusation d'insulte à la nation est lourde à porter dans un pays comme la Turquie. Sezgin Tanrıkulu, élu du principal parti d'opposition, le CHP social-démocrate, risque lui aussi plusieurs procès pour violation présumée de l'article 301. Son dernier crime en date, s'être opposé sur Twitter à l'offensive d'Ankara contre les forces kurdes en Syrie.
Le plus frappant dans tout ça, c'est que l'ouverture de cette enquête contre moi a été annoncée par communiqué de presse. C'est d'autant plus inhabituel qu'au même moment, environ un millier de personnes faisaient aussi l'objet d'une enquête pour des messages similaires sur les réseaux sociaux. C'est une façon de dire, même les députés n'ont pas le droit de s'opposer à cette guerre. et c'est une façon de me désigner comme cible.
Le gouvernement ne fournit pas de chiffres sur l'usage de cet article. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2018, plus de 36 600 enquêtes et plus de 6 300 procès ont été ouverts sur la base de l'article 301 et de l'article 299 du Code pénal, qui punit, lui, l'insulte au chef de l'État. Il y a quelques années, ces chiffres étaient proches de zéro. Comment expliquer ce retour des procès pour insultes, plus particulièrement pour insultes à la nation turque ? Selon le député Garo Paylan, c'est non seulement un moyen de pression pour faire taire les voix dissidentes, mais aussi une illustration du climat politique des trois dernières années. Après le coup d'État manqué de juillet 2016, le parti du président Erdogan, l'AKP, a scellé une alliance avec le parti ultranationaliste. Garo Paylan.
Au moment de la fondation de la République et dans les décennies suivantes, la Turquie a été soumise à des gouvernements qui ont tenté d'imposer une vision uniforme de la citoyenneté. Pendant les premières années au pouvoir de l'AKP, des avancées importantes ont été faites dans ce domaine. Puis le régime d'Erdogan est devenu de plus en plus autoritaire et il s'est allié au parti d'action nationaliste. Nous avons opéré un grand retour en arrière.
Les archives des journaux en sont la preuve irréfutable. En février 2008, les médias turcs faisaient leur une avec une promesse de Recep Tayyip Erdogan. Il déclarait alors, je cite, « D'ici très peu de temps, on n'entendra plus parler de l'article 301 ».
En un an, la Hongrie a opéré un degré de contrôle des médias sans précédent dans un État membre de l'UE. C'est le constat d'une mission d'organisation internationale de défense de la presse qui s'est rendue récemment dans le pays. Le clan du Premier ministre nationaliste Viktor Orban contrôle 80% des médias publics et privés, un véritable empire qui diffuse de la propagande, des fake news et qui étouffe la voix des médias indépendants. Les journalistes critiques ne sont pas tués ni jetés en prison, mais ils sont de plus souvent attaqués. Reporters sans frontières accuse le gouvernement de dénigrer la presse indépendante. À Budapest, Florence Labruyère.
Gabor Miklóssy et András Dézsőt travaillent tous les deux pour le média indépendant Index, principal portail d'actualité du pays. Le 15 novembre dernier, tous deux assistent à l'inauguration en grande pompe d'un nouveau stade de football par le Premier ministre Viktor Orban. Pendant l'inauguration, alors que le public se lève comme un seul homme pour écouter un groupe de rock d'extrême droite, l'un des journalistes refuse de se lever de sa chaise. Et les deux rédacteurs tournent l'événement en dérision dans leurs articles. Dans les jours qui suivent, des affiches antisémites sont placardées dans tout Budapest. On y voit les photos des deux journalistes sur fond de drapeaux israéliens avec ce slogan « Nous aussi venons de l'étranger ». À la télévision publique, des politiciens d'extrême droite qualifient les journalistes de traîtres. Et les journaux pro-gouvernementaux relaient cette campagne de haine. Ces gens sont des ennemis. Ils font partie d'une guerre contre la nation hongroise. Il faut supprimer ce réseau car on ne peut construire l'avenir du pays que sans eux, écrit un blogueur hébergé par le journal de droite Demokrata. Quant au rédacteur en chef de ce journal, un fidèle de Viktor Orban, il affirme « Nous n'avons pas besoin de ces gens au cœur étranger. Dans le stade, une nation s'est retrouvée, mais il y avait un étranger qui n'a rien en commun avec nous. » Les affiches ne sont pas restées longtemps en place. Le nouveau maire de Budapest, un élu d'opposition, les a faites enlever. Les attaques ont été dénoncées par l'Association nationale des journalistes hongrois et par les ambassades américaines et israéliennes à Budapest. Mais le gouvernement hongrois, lui, ne les a pas condamnées.
Direction le sud-est de la Bosnie, une région durement frappée par les conflits des années 90, le village d'Ustikolina avait été rasé. Aujourd'hui, grâce au soutien du mouvement Slow Food, des femmes du village, anciennes réfugiées, ont fondé une coopérative agroalimentaire basée sur les fruits de la région et sur les recettes purement locales. Et cela marche, l'initiative prend de l'ampleur, leurs produits sont vendus dans certains supermarchés du pays et les touristes curieux sont revenus dans le village. Reportage de Louis Seyé.
Dans le village de Ustikolina, sur les flancs de la rivière Drina, les cagettes de fruits et de légumes sont bien remplies. Yasmina et ses voisines sont au travail dans la cuisine installée sur la terrasse. Au programme, du slatko, une sorte de prune locale.
Là, vous retirez le noyau, vous gardez le fruit en entier et après on ajoute du sucre pour la cuisson. Et ça donne du slatko. Et on fait ça à la main, pas à la machine. On pèle le fruit à la main, ça prend une heure.
Ces fruits confits sont un peu le symbole de la renaissance pour Ustikolina. Le village revient de loin. Il y a 25 ans, la région de Gorajda a été le théâtre des pires atrocités qui ont ensanglanté la Bosnie durant les guerres de Yougoslavie.
Le père de mon mari a été tué ici, sa mère aussi a été tuée ici. On a dû quitter la région pendant 4 ans. Mon mari a combattu pendant la guerre dans les montagnes. Après la guerre, on est revenu au village en l'an 2000, il y a un peu moins de 19 ans. Notre maison nous a été donnée après la guerre.
Quand on suit le fils de Yasmina entre les parcelles débordant de fruits et de légumes, difficile d'imaginer que le village a été totalement détruit. À son retour à Ustikolina, Yasmina a convaincu ses voisines que la terre, il valait mieux la travailler ensemble.
Vous savez, après la guerre, il n'y avait pas de travail. Donc c'est surtout pour survivre que les gens se sont tournés vers ce qui leur permettait de subvenir aux besoins de leur famille. Et ils se sont rendus compte qu'on pouvait avoir des produits sains, des produits faits maison, des produits traditionnels et qu'on pouvait même les vendre pour faire vivre nos familles.
Emina est d'abord une coopérative de femmes. Au moment de sa création, beaucoup d'hommes étaient tombés à la guerre. À côté de Yasmina, Maïda prépare la confiture en remuant un grand chaudron rempli de prunes.
Avant, je produisais seulement pour moi et ma famille. Mais avec ce projet, j'ai commencé à travailler pour d'autres personnes. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique.
Fruits confits, confitures, mais aussi ajvar, cette fameuse purée de poivrons des Balkans, les produits naturels de la coopérative rencontrent aujourd'hui un beau succès en Bosnie. Cette réussite, les femmes de Ustikolina le doivent aussi au mouvement Slow Food italien. Eugenio Berra travaille dans les Balkans pour promouvoir une agriculture locale et respectueuse de l'environnement.
D'un point de vue commercial, elles ont réussi à s'insérer dans les circuits de distribution, disons, classiques, et on peut acheter les produits de la coopérative dans les supermarchés en Bosnie. La coopérative est viable et durable. Les 6 ou 7 femmes qui l'ont fondée et qui y travaillent peuvent en vivre.
Eugenio est un habitué de la cuisine de Yasmina. Depuis plusieurs années, il y amène des touristes italiens curieux des spécialités locales. Si la coopérative Emina est un vrai succès, elle reste une initiative encore rare.
Cette coopérative, c'est un monde qui petit à petit commence à émerger. Avec toutes les difficultés d'un pays qui, par exemple, a des politiciens qui ne soutiennent encore que très peu les petits agriculteurs et les petits producteurs.
À quelques dizaines de mètres de la maison de Yasmina, une clôture et des fils barbelés. Le village est situé sur la frontière qui sépare aujourd'hui la République serbe de Bosnie du reste du pays. Les discours nationalistes qui continuent de diviser Serbes, Croates ou Bosniaques, Yasmina en a assez.
Mais oui, bien sûr qu'il y a des Serbes ici. On vit normalement, on se parle, il n'y a pas de problème. C'est un truc de politicien, ils jouent sur la corde nationaliste. Seulement pour garder le pouvoir, ils doivent parler de ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir de quelle nationalité sont les gens. Moi, je veux simplement vivre.
Le courage et la détermination de femmes comme Yasmina, il en faut pour vivre dans un État constamment bloqué par les intérêts de ses dirigeants nationalistes. Les jeunes continuent de partir et la crise démographique s'aggrave. Avec 3,5 millions d'habitants, la Bosnie a perdu plus d'un million de personnes depuis 1992.
Eh bien, n'est-ce pas ? C'est très simple. Vous commencez à 8h jusqu'à midi. Vous avez 1 heure pour le repas. Vous reprenez à 1h jusqu'à 6h. Et bien entendu, vous allez au dimanche.
La réforme des retraites toujours au cœur de l'actualité en France. La grève dure maintenant depuis 2 semaines. Et dans cette réforme, un point particulièrement sensible, celui de l'âge d'équilibre porté à 64 ans. Il s'agit de l'âge auquel les travailleurs pourront partir en retraite à taux plein. Un nouveau recul du départ à la retraite qui est loin de plaire aux syndicats. Ils font notamment valoir que les fins de carrière sont particulièrement compliquées pour les plus de 55 ans, avec dans le pays des entreprises réticentes à embaucher les seniors réputés plus chers salaire et moins productif. L'emploi des seniors en France et en Europe, c'est le thème de la chronique de Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Alexis.
Le sous-emploi des seniors est-il un problème spécifiquement français ?
Non, quand même pas. Selon Eurostat, le taux d'emploi des personnes de 55 à 64 ans, c'est-à-dire la proportion de celles qui occupent effectivement un emploi, atteignait en 2018 52% en France. Ce taux est encore plus bas dans 8 États de l'Union européenne situés à l'est de l'Europe, mais aussi au Luxembourg et en Belgique. Cela dit, les seniors de l'Hexagone travaillent nettement moins que ceux de la plupart de nos voisins ouest européens. Le taux d'emploi des seniors n'est qu'un peu supérieur à celui de la France, en Espagne et en Italie, mais il dépasse les 65% au Royaume-Uni, en Finlande, aux Pays-Bas, il excède les 70% en Allemagne et au Danemark, et il atteint même 79% en Suède. Le décalage est encore plus fort si l'on considère le taux d'emploi des 60-64 ans. Il est par exemple de 56% aux Pays-Bas contre 31% seulement en France.
Et comment s'expliquent ces différences ?
Il y a d'abord l'effet mécanique d'un âge légal de départ à la retraite plus tardif, rarement inférieur à 65 ans dans la plupart des pays. D'ailleurs, l'augmentation de 60 à 62 ans de cet âge en France, à partir de 2010, a eu pour effet d'augmenter l'emploi des seniors qui n'était que de 38% en 2008 contre, je rappelle, 52% actuellement. En outre, dans l'Hexagone, plusieurs millions de personnes bénéficient d'un âge de départ à la retraite anticipé, ce qui est plus rarement le cas ailleurs. Mais il y a aussi l'effet de politiques volontaristes mises en œuvre dans plusieurs pays pour favoriser le maintien dans l'emploi ou l'embauche des seniors.
Vous avez des exemples ?
Les Pays-Bas et la Scandinavie ont multiplié depuis plusieurs années des mesures favorisant l'adaptation des seniors au travail. Parmi celles-ci, l'aménagement du temps et des conditions de travail, l'ergonomie des lieux ou l'accès à des salles de fitness. Certains États comme le Royaume-Uni ont aboli tout âge obligatoire de départ à la retraite ou accentué les bonifications de retraite après l'âge normal de départ. L'Allemagne va même jusqu'à subventionner les bas salaires des seniors et verse aux entreprises des primes à leur recrutement. En Italie, en Espagne, en Belgique, il est prévu des baisses de charges sociales pour le maintien d'un senior dans l'emploi.
Et rien de tel en France.
Alors, il y a quelques mesures comme le CDD senior, la formation continue, certaines primes à l'embauche ou au maintien en activité. Mais force est de constater l'efficacité toute relative de ces initiatives. De fait, le taux d'emploi des plus de 65 ans est en France de 2,4%, l'un des plus bas d'Europe. Ce taux dépasse 8% en Italie, 10% en Allemagne, 14% au Royaume-Uni et frise même les 22% en Suède.
Ce qui semble logique, Daniel, c'est que plus on retarde l'âge de la retraite, plus on augmente le chômage des seniors.
Dans tous les pays, le taux de chômage des 55-64 ans est inférieur au taux global. C'est également le cas en France où 6,7% des seniors en activité sont au chômage contre 8,8% pour l'ensemble de la population. Il est vrai que ce taux a augmenté depuis le passage de l'âge de la retraite à 62 ans puisqu'il était auparavant d'environ 5%.
Globalement, donc, les seniors travaillent moins longtemps en France.
C'est incontestable. En 2018, tout retraité confondu, les Français prennent en moyenne leur retraite à 60,8 ans. C'est l'âge effectif le plus précoce de toute l'Union européenne, à la seule exception du petit Luxembourg. Chez nos voisins, l'âge effectif de départ dépasse 62 ans en Espagne, 63 en Italie, 64 en Allemagne et au Royaume-Uni, 65 aux Pays-Bas et il grimpe à plus de 66 ans en Suède. Cette exception française est cependant moins criante si l'on ne considère que les seuls salariés du secteur privé qui partent en moyenne à près de 63 ans. À signaler un phénomène inattendu, partir tôt à la retraite ne signifie pas vivre mieux plus longtemps.
Et comment cela ?
Eh bien, en comparaison des principaux pays de l'UE, la France est celui dont l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans est la plus faible. Un peu plus de 9 ans, contre plus de 10 aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, 11 en Allemagne et, tenez-vous bien, 15 ans en Suède, pays où les gens travaillent de loin le plus longtemps. D'ailleurs, la perspective d'un allongement de la vie active est plutôt bien perçue au nord de l'Europe. Au vu des protestations sociales, c'est très loin d'être le cas en France.
Merci Daniel Vigneron pour toutes ces explications. Et merci à vous d'avoir suivi Accent d'Europe, une émission réalisée par Françoise Grelot. Pour la réécouter et la partager, c'est simple, il suffit d'aller sur rfi.fr, rubrique podcast Accent d'Europe. À demain.